I guess in Caen it's not as sunny as here, and maybe you are freezing there, but you know, maybe all this is fiction, and so ignore it. It's don't assume that this is real or has anything to do with reality. Maybe looking at all the questions that you send me, I should try to answer all in one way. Or I have somehow I have difficulties with this generalization, categorization of fiction and documentary. I'm not being naive. I know when it's fiction. I know when it's documentary, and I understand also how this separation helps us, at least when we try to make order to our DVDs on the shelves. Then this is maybe one of the ways to put things so that they are easy to find. I would rather think of films and not of documentaries or fiction, because I think that in any way that you make films, you have to write them, and when you write them, you actually rewrite. If you write a documentary, you rewrite reality. When you edit a documentary, then you decide, or when you conceive a project, you make a certain decisions about how a certain story should be told, and you script it in your mind, and so this whole idea of transferring reality as is to film is, of course, it doesn't exist. Whatever you do is it goes through this little box over here, and there it's being processed, being understood, being rewritten, and eventually put on video or film and presented to an audience. So just imagine, I mean, when you come home and you want to tell your partner about something that happened to you during the day, on the way you say, how will I tell it? I can start with the end, that everything is okay, nothing happened, but then I will there will be no suspense in the story. Maybe I should start with something completely, you know, you make a concept of how to tell something, you create a concept of how to tell something that happened and supposedly can be told the way it happened, but nothing can be told the way it happened. It always passes through your subjectivity. Of course, some of us have the tendency to hide this subjectivity, to conceal it, to pretend that there is no storyteller, or there is only someone who, an honest broker, someone who passes information from one side, from the world to another side, to the screen, and this is how things really happen. And those, if you ask me, those are the biggest liars. Those who pretend not to have not touched the story, to have not marked the story with their views or their understandings or their subjectivity or their ideals. So I don't know, did I answer the question? Now, of course, to relate to the fact that I'm present in my films, this is a very deliberate, or it didn't start this way, but eventually turned to be a very deliberate strategy in order to make present inside the film, each film, the fact, or everything that I've talked about until now, the fact that there is someone who is there, who is looking, who has got his eye, and his mind, he's collecting, and yeah, later food processing. There's a big food processor here, or reality processor here, and that this person is not anonymous, is even biased. He's, it's very important for me the fact that the filmmaker has incentives, is triggered to make a film, is triggered for reasons that have to do with his personal history, with his ideals, with his ideology, this is why he should be present there. Also, for me, actually, the making of the film, once you start making the film, the film starts also reacting to you, or reality starts reacting to your presence and to you making the film. And this is why what happens to you, or the understandings that you collect while making a film, are extremely interesting, and films are so much more interesting when they include their own failures, failing to make the film that you dreamt of, or the development of the film that is. That was guided, or was created by the making of the film. So this is why I have turned to this, I don't know, mechanism of making a film within a film, and making sure that you both are exposed to reality, but at the same time, it's very clear how reality is biased by the person who collects it. So I think I will go to swim now, and bye bye.
Alors, vous avez à peu près saisi. Bon, moi, ce qu'il a dit, hein, sur le fait, tueur de fait. De toute façon, à partir du moment où on filme, on prépare un film, on fabrique un film, on est dans l'écriture, dans une logique d'écriture, du réel, etc. Et que, à partir du moment où on écrit effectivement un film, que le projet passe aussi par l'écriture, on est tout de suite dans presque dans un rapport de fiction. Donc pour lui, effectivement, le documentaire et la fiction ne sont pas du tout des catégories très, enfin surtout pas distinctes, effectivement. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, c'est que bon, c'est le lieu aussi, hein, le fait qu'il ait choisi cette piscine. Enfin, c'est déjà de la mise en scène. Enfin voilà, il parle de lui, et que en même temps, voilà, c'est presque un film de Mograbi, là, ce qu'on vient de voir. Donc c'est effectivement intéressant à ce niveau-là. Alors peut-être justement, mais j'aimerais bien poser la question. Comme ça, un peu général, puisqu'on parle vraiment de la création, là aussi du travail de la création. Est-ce que justement la fiction, alors je vais commencer par poser la question peut-être à Marina, déjà pour commencer. Est-ce que quand tu commences pour la première fois un film documentaire, la fiction dans lequel dans laquelle tu t'es exercé déjà avec, avec Poursuite, c'est le film de 2010, ne te quitte pas. Est-ce que pour toi, c'est vraiment deux... Tu sens que quand tu fais le documentaire, c'est un exercice d'une autre... Évidemment, d'une autre nature, mais pas si éloigné de ça, finalement, de la manière dont tu as réalisé ta fiction.
Déjà, je ne vais pas parler de manière trop générale, parce que j'ai fait un documentaire. Donc, quand je fais des documentaires en général...
Non, mais tu vois, cette expérience-là.
Cette expérience-là, en tout cas. Et je n'ai pas fait 50 fictions non plus. Donc, je ne cherchais pas la même chose. Ça ne s'est pas fait de la même manière. Et je dirais, à la fin, bizarrement, c'est la même chose que je trouve, en fait. Mmh. Plutôt dans ce sens-là que ça s'est passé. Enfin, que j'ai l'impression de trouver. Comment dire ? Non, j'y suis vraiment pas allée par les mêmes chemins, même si Poursuite, alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui sont probablement la majorité d'entre vous, mais il faut aller le voir. Et un film qui est très. Enfin, qu'on appelle classiquement naturaliste. Mais alors, plus que naturaliste, en fait, archi-naturaliste, pas que. Parce que si c'était que ça, moi, personnellement, ça ne m'intéresserait pas du tout, mais qui travaille sur le fait, je pars de là pour expliquer, en fait, qui travaille sur le fait de le rendre, non pas le plus documentaire possible, mais le plus réel, et pas réaliste, voilà, réel possible, et je pensais notamment sur ces histoires de points de réel, pour vous donner un micro-exemple qui vous dira pas grand-chose sur le film, enfin, peut-être sur sa texture. À un moment, il y a eu une deuxième monteuse qui est arrivée sur le film, et il y a une scène dans laquelle il y a un bébé dans une poussette, et une comédienne, où il y a une discussion avec deux adultes autour d'une poussette, et une comédienne se penche vers le bébé qui n'était pas son enfant. Je sais même pas si la comédienne en question avait des enfants, enfin, peu importe. Se penche vers le bébé et lui caresse les sourcils. Un petit geste, enfin, c'est vraiment un micro-détail auquel moi d'ailleurs j'avais pas particulièrement prêté attention. Et en fait au bout de quelques jours de montage, on est passé sur cette scène entre autres choses, la monteuse me dit c'est dingue, moi à chaque fois que je vois cette scène j'ai des frissons. Bon, pourquoi? Parce que c'est pas la scène centrale. Hein. J'ai des frissons parce que en fait je crois que ma mère me faisait la même chose. Ou en tout cas j'ai l'impression que ma mère me faisait la même chose. Et c'est pas un truc qu'on a calculé, c'est pas un... enfin, mais il y a quelques... le film entier est plein de ces choses-là. C'est-à-dire de construire l'espace pour que les comédiens puissent s'emparer d'une situation où ce genre d'effet soit là en permanence. C'est pour ça que... mais je l'appellerai pas documentaire au sens où il s'agit absolument pas de faire du documentaire sur ce que c'est d'avoir une poussette entre deux adultes. Il s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de construire une texture telle que ces choses-là sont là en permanence, et c'est pas forcément qu'elles ressortent, c'est qu'on les ressent, qu'on est traversé par elles tout du long. Donc j'étais évidemment très contente quand elle m'a dit ça, la monteuse, mais c'était pas, pour le coup, c'était pas un calcul. En revanche, le contexte général était un calcul. Et un calcul et un travail pour arriver à ça. Pas ce geste-là, mais ces séries d'éléments. Sur le documentaire, alors là, j'y suis allée vraiment beaucoup plus naïvement et d'une manière... bon, de manière plus reposante, entre guillemets, je vais aller regarder des choses qui ont déjà lieu. Ce qui est effectivement du leurre, forcément. Mais je savais en allant les regarder que j'allais les regarder par mon prisme, forcément, comme le dit Mograbi. Mais c'était un prisme relatif, qui me semblait au départ relativement neutre. Et puis petit à petit, ça s'est construit chemin faisant. Donc ça s'est construit parce que, à cause de ce que je voyais m'enseignait petit à petit sur la manière même dont je le regardais. Mm-hmm. Donc c'est vraiment poser une brique, puis une brique par-dessus, et encore une brique, et tout ça prend forme, et non seulement prend forme, mais finalement je ne peux le voir qu'au montage. Et alors après il y a les questions de plaisir et tout, moi au tournage je m'ennuyais beaucoup, bizarrement, parce que je savais pas, enfin tout ça était un peu informe quoi. Mm-hmm. Et puis en fait, au montage, on se rend compte que c'est pas du tout informe, parce qu'en fait, on a justement informé, au sens de mis en forme, la manière de le regarder, mais ça apparaît. Et alors pareil, sur les effets de réel, le chef opérateur est une espèce de partenaire absolument clé de ça, parce qu'il faut qu'il soit votre œil et votre... c'est lui qui doit aller chercher le détail, c'est lui qui doit sentir qu'un personnage, parce que ça devient des personnages, va traverser... la pièce de telle manière et être prêt à le suivre pour que ce soit fluide. Enfin, ça serait pas très intéressant de le perdre, parce que le perdre rappellerait juste qu'on est en train de courir derrière, alors que ce qui est intéressant, c'est de le voir comme si on était dans la fiction. Finalement, ça permet de rebondir sur ce qu'on... Parce que moi, plusieurs personnes m'ont dit que ça ressemblait à de la fiction, même ça n'a jamais été calculé comme ça, mais je pense que si ça ressemble à de la fiction, c'est à cause de ça. C'est pour pas avoir... Enfin, de se débarrasser de cette impression d'être en train de courir derrière une réalité qui vous échapperait, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt quand on le fait. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça un ennui prodigieux. Et ça n'a aucun intérêt, je trouve, quand on le voit. C'est un leurre, quoi. Puis il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Je trouve que la manière de le filmer, il faut avoir l'espace où ça se déploie, plutôt. Et que c'est peut-être ça, la fiction.
Et Thilou, dans tes romans, enfin, est-ce que tu as écrit trois romans, des romans policiers, tu as écrit un essai donc, sur le roman policier. Pour toi, le roman policier est un, je dirais, est un moyen justement pour aborder, ou pour un moyen idéal, disons, pour aborder ou explorer une réalité. Ou est-ce que effectivement la réalité que tu décris, hein, la réalité péruvienne, ou est-ce que d'une certaine façon, la réalité péruvienne que tu as envie de décrire, tu as le sentiment qu'elle pourrait passer idéalement par le roman policier. Enfin, je ne sais pas si tu me fais bien comprendre.
Je parle de roman policier, mais ce que j'appelle les romans, les polars alternatifs. C'est un genre que je propose. Et c'est un genre qui prend les caractéristiques de roman policier classique et hard-boiled. Et pour les raisons de la violence politique à l'Amérique latine, il y a des écrivains qui avaient la nécessité, les besoins d'adapter ces romans pour le faire réel. Parce que le problème, c'était que dans un pays, dans une région, qui avait beaucoup, beaucoup de dictatures, et la question, disons, qu'il y avait pour eux, et pour eux, c'était comment est-ce qu'on peut faire avec un roman dans lequel il y a la justice, non? Il y a un criminel qui si c'est coupable, va aller... Si il est riche, s'il est millionnaire, s'il a de l'argent, et dans mon pays, à Pérou, c'est vrai que c'est un peu difficile que la justice va à cet effet. Donc, c'est les polars différents, c'est les polars atypiques, c'est les polars que j'appelle les polars alternatifs. Et c'est ça que j'ai fait dans mon travail de fiction aussi. Donc, par exemple, quand quelqu'un me demande si je suis un romancier policier, je dis non, parce que je ne suis pas. Donc ma formation, c'est classique. Quand j'étais petit, j'ai lu des classiques. J'ai lu Faulkner, j'ai lu les écrivains de Boom. Tout ce qui est lié à roman policier, c'était venu après. J'écris un roman qui s'appelle Bioy. C'est un roman sur la violence politique à mon pays pendant les 180 et jusqu'à présent, presque présent. C'est un texte qui semble porter lui-même la violence. Une chose que je me demandais, c'était comment est-ce que je peux faire pour décrire ces réalités sales, hein? Parce que la violence était difficile à décrire. Donc, les structures policières, si on peut dire les structures policières, c'est une caractéristique de roman mais je pense pas que j'utilise le polar pour parler de la réalité ou ça. Non, ce que je fais, c'est j'écris un roman qui parle d'un pays qui c'est comme une histoire de l'infamie de mon pays. Il y a un film français qui était, je pense que le réalisateur c'était argentin, français les deux, qui s'appelle Irréversible. Je sais pas si vous...
Gaspard Noé.
Ouais. Et c'est un film, je sais pas si je l'aime bien, mais quand même c'est intéressant. Il y a Bioy, peut-être à t'inspirer, il y a une scène que je me souviens très bien, et c'est en violation, parce que c'est les scènes les plus connues, de 13 minutes, je pense, dans une station de métro à Paris. Et ce qu'il a fait, c'était de mettre la caméra sur, par terre, et il a laissé comme ça. Donc, c'est comme voit, c'est la violation, presque comme si c'était un documentaire. Et c'est horrible. Non, les scènes, c'est vraiment... c'est l'horreur. Dans mon roman, et il y a plusieurs narrateurs, on peut dire que c'est un roman polyphonique. Mais il y a aussi une caméra derrière le narrateur. C'est une caméra, et j'aime bien utiliser le mot enregistrer, parce qu'il essaye d'enregistrer la réalité. Dans la même manière que Irréversible. Mais je me suis rendu compte que la réalité était plus forte. Et que peut-être je n'ai pas réussi de décrire l'horreur. Parce que les mots, ils n'arrivent pas à décrire ce qui a passé dans mon pays. Il y avait 70 000 morts, surtout dans la campagne. Moi, je suis un romancier. Je ne fais pas l'autofiction, la non-fiction, je fais la fiction. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'utilise des mécanismes de la cinématographie beaucoup. Et parce que ça m'intéresse. M'intéresse aussi de montrer cette réalité sans l'embellir. Je veux pas faire un maquillage de ça que j'ai décrit. Donc, ça.
Mais là, tu viens de dire un mot important, puis je pense que c'est un mot qui concerne le cinéma et le cinéma éminemment, et puis du coup la littérature, mais peut-être sous une autre forme, c'est le mot enregistré, hein, c'est le mot enregistrement. Et peut-être, effectivement, je pense qu'on est assez d'accord, même après avoir écouté Alain, sur le fait que, voilà, à force d'enregistrer, peut-être, y compris à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler une fiction, quelque chose, en effet, je dirais du réel, enfin en tout cas, peut effectivement subvenir. Est-ce que justement le réel est peut-être, Marina fait la moue, sur cette question de l'enregistrement, c'est quelque chose évidemment qui est très intéressant là-dessus, dans une fiction qui pourrait s'identifier, en tout cas se désigner comme telle, a priori, sur un plan générique, est-ce que l'enregistrement ou la problématique d'enregistrer quelque chose peut être... une manière, finalement, de détourner la fiction du côté, effectivement, ce qui pourrait être du réel, ou pas du tout.
Oui. Moi, je pense que, quoi qu'il arrive, c'est pas parce qu'on filme qu'il y a du réel. Enfin, c'est une banalité de dire ça. C'est-à-dire que le fait que du réel arrive il est jamais ontologique. La caméra, enfin, Bazin pensait un peu le contraire, mais la caméra ne suffit pas, et la volonté du cinéaste non plus. C'est-à-dire que le réel advient, il faut beaucoup de conditions, mais on peut pas les maîtriser. C'est-à-dire que dans l'écriture, forcément, il y a maîtrise. Dans l'écriture, je veux dire, les mots, on ne peut pas les mettre là par hasard. Voilà quoi. Alors, moi, il me semble que le fait que le cinéma soit fait avec une caméra qui est censée enregistrer du réel ne change rien. Enfin, en fait, qu'il peut y en avoir ou pas. Je veux dire que la caméra. Combien on voit de documentaires où il n'y a pas un grain de réel, je veux dire, où voilà, on traite un sujet, ou etc. Si tu veux. C'est-à-dire que c'est une chose assez rare, finalement. Donc, ça veut dire forcément que ce n'est pas la caméra qui le produit. Déjà, on peut dire ça, quoi. Alors, l'écriture, c'est une toute autre question, enfin, je pense, parce que l'écriture, c'est comme la peinture, de toute façon. Il n'y a que ce qu'on a mis. Et après, il faut... Par contre, bon, je pense qu'il disait, je pense évidemment à Guyota, à Tombeau, pour je ne sais pas combien de soldats, où c'est la torture en Algérie et le sexe en Algérie, c'est pendant la guerre d'Algérie. Et là, il y a un tel effet d'accumulation d'horreur, enfin d'horreur, pas d'horreur, en tout cas de choses extrêmement concrètes, brutales et directes, que finalement, ça produit quand même une représentation. Enfin, quand on lit le livre de Guyota, on a l'impression qu'on a approché quelque chose de ce qui s'est passé. Mais c'est le contraire d'un roman documentaire. C'est brut, c'est répétitif. L'idée de répétition, elle est essentielle, hein, par rapport à ça. La répétition produit, en l'occurrence dans le livre de Guyota, ça produit quand même des images. Et on a l'impression que ces images, elles attrapent quelque chose de ce qui a pu se passer en Algérie, enfin, à ce moment-là. Quoi, voilà. Donc mais c'est clair que Guyota, c'est comme... je ne pense pas qu'un roman naturaliste puisse produire ça. Guyota, c'est un dispositif. C'est un énorme dispositif, le tombeau. C'est-à-dire, il va raconter, il va comme ça, il va aligner des centaines de gestes, de sexe et violence et torture. Mais c'est le geste de l'accumulation fait que ça finit par produire quelque chose qu'on voit. Voilà. Mais c'est un dispositif. C'est pas, je crois. Enfin, moi, ma conviction, c'est que le dispositif, c'est un peu la clé de faire surgir quelque chose, quoi.
Ben oui, mais du coup, en documentaire et en fiction. Et en roman.
Oui, oui, non, bien sûr, en roman.
Et par
oui,
et du coup, ça produit quelque chose.
Oui.
Enfin, ça donne un espace où ça peut émerger.
Oui.
Quoi.
Voilà, en gros, je ne sais pas si je...
Oui, c'est si. Non, mais ce sont des hypothèses. C'était vraiment sur le terme, en fait. Sur le terme, justement, quand Lou parle de l'enregistrement, c'est-à-dire que le fait qu'on utilise, qu'on puisse utiliser ce terme-là, au lieu même de filmer, enfin, c'est parce que, ou d'écrire, etc., d'enregistrer, oui. C'est-à-dire prélever quelque chose, ou faire en sorte... Justement, quand tu as évoqué Rossellini, le fait, voilà, la surface, ce qui suppose aussi le temps, enfin, un traitement du temps aussi, hein, c'est-à-dire prélever, ça prend du temps, et qu'au bout d'un moment, enfin, voilà, et que peut-être, à force, effectivement, de prendre ce temps de l'enregistrement ou du prélèvement, quelque chose en effet peut subvenir. Mais je suis d'accord, ça suppose aussi un dispositif d'attente ou d'accueil, de croyance aussi.
Enfin, il y a quand même le bel exemple du rayon vert.
Oui, tout à fait.
Parce que Romère, le personnage du rayon vert, c'est quelqu'un qui dit l'imaginaire ne suffit pas. Quand je rencontre des garçons, je ne peux pas savoir que c'est l'homme de ma vie ou pas. Parce qu'ils sont tous pareils. Enfin, c'est pas ça. Il faut que quelque chose d'extérieur me désigne que c'est lui le bon. Et du coup, elle fait confiance à un événement hors humain, totalement fait par le monde, qui est le rayon vert. Et elle se dit, si je vois le rayon vert, c'est que c'est l'homme de ma vie, c'est-à-dire l'instance qui décide que c'est l'homme de sa vie, il ne peut pas être intérieur, il ne peut pas être dans son imaginaire. Et là, c'est génial, puisque Romère, qui lui croit à ça, il dit ben, je vais filmer le rayon vert. Il passe des mois, il envoie des chefs-op à l'autre bout du monde, parce que là, il y a souvent le rayon vert, et il n'y arrive pas parce qu'évidemment, on ne peut pas le filmer, puisque c'est un effet sur la rétine. Ce que je trouve très bizarre, c'est qu'il n'ait pas compris avant, enfin que personne ne lui ait dit avant, mais parce que personne n'a osé le décevoir sur le fait qu'il n'arriverait pas à le filmer. Et finalement, sur l'inscription, évidemment, il ne peut pas l'inscrire. Et finalement, il le fait avec un trucage électronique, ce qui est quand même le comble par rapport à ça, rapport sur le fait que l'inscription du rayon vert était tout simplement impossible. Et du coup, ça, d'une façon, ça contredit son projet même, enfin, et le personnage. Le personnage aurait pu voir le rayon vert, mais pas nous, et pas le spectateur, et pas la caméra. La caméra, là, il n'y a rien à enregistrer, en l'occurrence, puisque c'est inenregistrable. Ou alors, il faudrait avoir des capteurs dans l'œil, dans la rétine, mais voilà, c'est inenregistrable. L'histoire est... Enfin, moi, j'aime beaucoup cette histoire hein, de Romer qui rêve... Parce que lui, il croit à l'enregistrement, Romer. Il croit vraiment à l'enregistrement. Et en même temps, bon, une chose que je pense vraiment, hein, bon, c'est juste jeté comme ça, c'est que l'enregistrement n'est pas forcément quelque chose de brut. Ça peut être... Par maniérisme... Des fois, le maniérisme enregistre plus que le truc brut. Il peut y avoir des... Voilà, façon dont... Je pense là à l'histoire du hareng que la mère tourne, c'est du pur maniérisme. Et ça marche, c'est-à-dire on voit la réalité d'un geste et on ne voit pas la mère. On voit quelque chose de... Il enregistre quelque chose de la réalité de ce hareng, enfin de ce poisson qui cuit, parce que justement il fait une chose tordue. Il ne fait pas la chose... Normalement on aurait dû voir la mère et voilà. Donc, et... Dans le cas de Romer, c'est évident. C'est-à-dire que Romer fait sortir du visible par maniérisme. Alors qu'on pense souvent un peu comme ça, de façon simple, que au plus c'est brut, au plus il y aura du réel, c'est pas vrai. Je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas au plus c'est brut. Il faut de la pensée du dispositif pour que quelque chose ait des chances d'arriver, même si on n'en est jamais sûr. Il faut de la pensée, il faut de la ruse, il faut voilà, c'est pas, je crois que l'enregistrement ne garantit rien, voilà, pour répondre à ta question.
Mais juste Marina, je me souviens, enfin, mercredi quand tu as présenté ton film, tu parlais de mystère, ce qui t'intéressait vraiment dans certains plans, notamment de ton dernier film, si on te donne, c'est-à-dire justement des plans évidemment que tu ne pouvais pas anticiper, enfin, dans le contenu, etc. Et que tu avais prononcé ce mot qui m'avait frappé et que je trouve très intéressant. Tu parlais justement de mystère quand un plan, d'ailleurs, tu l'as encore évoqué à l'instant. Là. Est-ce que ce mystère-là, ce ne serait pas justement ce que Alain appelait l'effet de réel ou le point de réel, hein, est-ce que ça vient un mot, le mot mystère, pourrait équivaloir à cet effet de réel-là?
Je me posais la question. Oui et non, parce que je pense que, par exemple, si je prends de la fiction pure, justement, qui donne tout ce plaisir de l'imaginaire, etc., enfin, oui, ça pourrait correspondre, mais d'une manière... par définition, le mot mystère, il est très difficile à définir. Quelque chose sur... Pas forcément un effet de surprise, mais tout autant un effet d'opacité, et ça, on parlait des comédiens, enfin, chez Orson Welles, mais dans tout le cinéma classique, pas que classique, d'ailleurs, enfin, à un moment donné, on peut avoir l'impression... que tout film, même le plus verrouillé, enfin tout beau film, même le plus verrouillé, même le plus maîtrisé, est dirigé vers une forme d'opacité qui va enfin apparaître. C'est ça que j'appelle mystère, mais pour moi c'est souvent porté par les corps, par les visages des comédiens. Et c'est difficile à calculer, c'est difficile à circonscrire. Qui est un peu différent de l'incident... de la réalité qui vient brouiller un truc pour faire apparaître autre chose. C'est pas contradictoire, mais c'est un tout petit peu à côté. Mais par exemple... Ça peut être de regarder quelqu'un un tout petit peu trop longtemps.
Oui, voilà.
Mais c'est pas qu'il va se passer quelque chose de plus. Enfin, il va pas y avoir d'événement, forcément. Mais ou ça peut même être... C'est épaisseur et opacité d'un corps, en fait. C'est pour ça que l'enregistrement, ça suffit pas du tout, parce qu'en général, ça efface les corps. Au contraire, Ce qui est d'ailleurs un peu magique, c'est qu'est-ce qui fait qu'une caméra peut effacer des corps, des visages, des présences, le poids des réalités, ou au contraire les faire apparaître. Donc, c'est très difficile de dire le point de différence qui fait que...
En tout cas, l'idée de que le plan dure un peu trop longtemps, c'est un truc que Godard a fait 200 fois, c'est-à-dire quand quelqu'un parle, on entend le sens. Quand il s'arrête de parler, normalement on coupe. Et quand on ne coupe pas, on voit quelque chose.
Oui, c'est un petit peu effacé par les 290 000 réalisateurs qui font la même chose depuis.
Qui ont copié, oui.
Oui, mais du coup, la longueur, on ne voit plus que la longueur. Quoi.
Mais chez Godard, c'était quand même très beau, ça, quoi, sur l'idée que un visage, on l'a vu, on a entendu ce qu'il a dit, puis il continue à être présent. Il y a quand même un effet de présence, voilà, à ce moment-là, un peu plus de réalité. Bon, Straub fait ça tout le temps, hein. Je veux dire, c'est des trucs, finalement, ça devient des trucs, enfin, pas des trucs, mais c'est un dispositif, effectivement, échangeable, enfin, mais à l'époque, bon, quand Godard, enfin, il n'est pas le seul, hein, je veux dire... Rossellini l'avait fait aussi, mais voilà, c'est cette idée en tout cas de ça dure un peu trop. Ça dure un peu trop, il n'y a plus rien à consommer, enfin, il n'y a plus rien à consommer de l'ordre du sens, donc ça crée un trou. C'est toujours la même histoire, hein. C'est créer un trou, créer un blanc dans le sens. Et là, ça arrive ou pas, mais en tout cas, il y a la possibilité que ça arrive, si on fait un blanc. Blanc. Là, on voit bien Straub, il fait le blanc sur le son, ça n'arrête pas, quoi, sur ça. Parce que dans l'imaginaire, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de blanc. Dans le bel imaginaire, qui nous plaît.
Je veux dire, c'est... Dans l'imaginaire plein.
Oui, dans l'imaginaire pur, au contraire. Justement, si on se réfugie dans l'imaginaire, c'est pour pas qu'il y ait de trou ni de blanc. Pour que ce soit plaisant, pour qu'on soit bien, on est enveloppé dans l'imaginaire, quoi. S'il y a des trous et on n'est plus enveloppé, on a froid, ça marche plus.
Est-ce que vous avez des... ouvrir la table. Est-ce que vous avez des questions?
La frontière qui est normalement devrait être des fois fluctuante, des fois conflictive, et devient aujourd'hui quelque chose de très consensuel. Donc, voilà. Je sais pas. C'est une question que je me pose.
Je suis assez d'accord qu'il y a un académisme maintenant. Tous les cinéastes, même les plus nuls, disent oui, il n'y a pas tellement de différence, c'est la même chose. Il y a un truc, il y a une doxa qui a gagné un peu tout le monde, comme si aujourd'hui, dire je suis en plein dans la fiction, je suis en plein dans le documentaire, c'était pas bien, que c'était pas valorisant, et que si on dit ça, on est bête, enfin, je parle des cinéastes. Et du coup, il y a un discours tout à fait stéréotypé sur cette chose-là, quoi. Y compris quand Godard le dit en termes poétiques, mais c'est la même chose. En gros, c'est l'idée, bon, on n'est pas aussi gogo que ça, et on sait tous que, voilà, quoi. Donc, en tout cas, il y a une doxa de ça, et de sa formulation, aujourd'hui. Je suppose que si on demande à De Palma, il dit non, c'est de la fiction. Ce que je fais, c'est de la fiction. Il n'y a pas de doute que c'est de la fiction.
La fiction, c'est ce qui serait façonné, forgé, construit, élaboré. Alors là, c'est moi qui extrapole. D'accord. Et la non-fiction, c'est ce qui serait le contraire. Donc, c'est ce qui serait brut, déjà là. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette dichotomie d'approche?
Moi, je ne suis pas le spécialiste, mais je ne suis pas d'accord. Je pense, par exemple, que Manon, même dans Narcos et toutes les séries, ce n'est pas vraiment important si c'est la fiction ou la non-fiction. Au devoir les limites entre les deux. La même chose en littérature. Je pense Qui à la fin, les livres ou les films ou les téléfilms qu'on produit, je ne sais pas s'ils se posent ces questions. Non, de savoir si la fiction ou la non-fiction, s'il y a une différence entre les deux, même si on a vraiment deux genres. En littérature, et c'est clair, mais en même temps, par exemple, je me demande, il y a maintenant, on peut parler de l'autofiction. Il y a beaucoup de livres d'autofiction qui viennent d'Espagne, de l'Amérique latine. Et quand je pense à ce que je fais, j'écris 100 livres de fiction. Et dans 4, sauf Bioy, il y a un personnage qui s'appelle Chato. Je ne sais pas comment on dit Chato petit, mais il y a une autre façon de... Chato, les petits, moi je suis petit. Et les châteaux s'appelaient les châteaux jusqu'à le dernier roman que je viens de présenter qui s'appelle La Procession Infinita. Et dans le dernier, il s'appelle Chato Diego. Et il habite à 16 rue Étienne Marcel, Paris, que c'est ma maison. J'habite là-bas. Et. C'est vrai que ces derniers romans et les premières, c'était les plus autobiographiques. Mais mon intention, ce n'était pas de faire, d'écrire en autofiction. Mais en même temps, j'ai joué un peu avec ça. Parce qu'il y a des choses vraiment autobiographiques. Il y a des choses que on peut l'appeler l'alter ego, un peu un alter ego de moi. Beaucoup de lecteurs m'ont demandé pourquoi je faisais ça. Dans mon premier roman, c'est un peu plus polar. Il y avait un critique littéraire qui a été tué pour un groupe des écrivains. Non, vraiment tué, hein, pas métaphorique. Et le roman, il s'agit de... il y a des manuscrits, quatre manuscrits, dans lesquels il... Chacun de ces écrivains raconte l'histoire pour se justifier de qu'ils ne sont pas coupables. Mais il y a des personnes qui m'ont demandé si j'essayais de tuer un critique. Hein. Et pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que quand je suis en train d'écrire ou de penser le roman, même si je ne fais pas la non-fiction, et en même temps, je n'ai pas interconscience de limite entre les deux. Je ne sais pas si ça change quand on parle de la cinématographie, de cinéma. C'est vrai, j'aime bien Godard. Et mon collègue Pablo et moi, la dernière fois qu'il était à Paris, on a parlé beaucoup, beaucoup de Godard. J'espère que tu fais la même question que tu fais. Et la question, c'était de... Quand on parle de Godard, est-ce qu'on parle d'un génie ou parce que maintenant, on peut voir certains films de Godard qui on se demande si ça c'est... Une chose qui a changé le cinéma, au contraire, non. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a des films qu'on ne comprend pas. Absolument. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs de réalisateurs qui ont fait la copie de Godard, mais en même temps. Dans mes romans, il y a des hommages. Il y a des hommages à des écrivains que j'admire, qui m'ont influencé. Maintenant, je pense que, pour finir, tout est un peu mélangé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est tout un peu mélangé. Même mes collègues, qui ont fait l'autofiction sur sa vie, même eux, ont utilisé la fiction dans cette autofiction. Quand la réalité c'était trop dur, ils appellent les romans de fiction. Donc même la catégorie, ils sont un peu difficiles de définir. Pardon, je n'ai pas répondu.
Non, pour rebondir à, sur le, la question de la fiction comme façon, enfin chose qu'on façonne. Forger, moi je dirais sur la question, et vous avez dit élaborer, j'irais sur la question de l'interprétation. C'est-à-dire, en fait, quand on voit l'extrait de Shoah, et quand Diego parle de la violence qui est impossible à dire, parce que c'est, ce serait trop brut, ou je sais pas, même les Polonais qui parlent avant qu'on zoome sur les filles dans l'église, c'est la fiction qui raconte. Non mais au sens où, enfin, c'est une interprétation, c'est une image écran qui se sont reconstruites, c'est des images au sens de presque des images d'Épinal de ce qu'ils ont pas voulu entendre. Quand et pour continuer sur la question de la Shoah, quand vous lisez Kertész, et c'est pour ça que c'est extrêmement fort, c'est qu'il nous raconte la fiction dans laquelle il s'est mis. Il n'y a pas de, enfin, pour reprendre la question lacanienne, on n'a pas d'accès au réel, donc on a un accès que d'interprétation, et ça c'est de la fiction en permanence. Donc notre réalité c'est en permanence de la fiction, donc, que ce soit documentaire ou fiction. Après on joue à l'intérieur de ces catégories. Néanmoins, pour revenir sur la question de distinction, enfin que cette question d'interprétation, mais comme on dit interprétation d'un rêve, enfin on a tous déjà eu l'impression de dans la vraie vie d'être sur une scène de théâtre ou d'être dans une construction. Une fiction hyper maniérée au cinéma, par exemple, ça va être une manière de faire émerger un truc hyper réel à partir de ce théâtre, disons, de ce théâtre extrêmement irréel. Bon ben voilà, il y a, je dirais qu'il y a plein de chemins d'interprétation pour se saisir. Enfin, c'est tous de la fiction. Je sais pas.
Mais Lanzmann, en deux mots, toute sa vie, il a dit la même chose. Il a dit on ne peut pas représenter la Shoah et on n'a pas le droit de représenter la Shoah. Parce que du coup, ça veut dire que sinon, on transformerait quelque chose qui est une réalité intraitable en imaginaire. Et c'est pour ça qu'il a toujours été très méchant avec tous les cinéastes qui ont essayé de représenter la Shoah en disant voilà, la seule façon dont on peut se faire une image de la Shoah, c'est de faire parler les gens. C'est des récits, finalement, et en les regroupant, etc., je vais réussir à peut-être à produire quelque chose qui serait plus proche du réel, de la Shoah, que si je me mettais à le représenter. Donc, quand même, il y a un vrai concept derrière. C'est-à-dire, il dit voilà, on n'a pas le droit. Enfin, parce que lui, en même temps, c'est moral. Il dit on ne peut pas et on n'a pas le droit. De faire ça. Et donc, lui, il a cherché quand même toute sa vie comment faire du cinéma avec quelque chose qu'il estime irreprésentable, impossible à représenter. Et il l'a fait avec une ténacité incroyable. Il n'a pas arrêté de faire ça toute sa vie, c'est-à-dire de chercher comment, quand même, susciter une vision, enfin des images, sur quelque chose dont il pense qu'on ne peut pas le mettre en image. Donc, cohérence absolue. Par rapport à la question que vous avez posée sur le fait que moi je ne crois pas, comment dire, dans le cinéma, que d'un côté il y aurait ce qui est fabriqué, enfin ce qui est construit, et de l'autre ce qui serait capté, c'est pas vrai. Mais par rapport à ce que vous avez dit, je dis moi quelle est ma conviction, c'est-à-dire que même ceux qui arrivent à attraper du réel, ils font autant de travail de construction que ceux qui font de la fiction, et peut-être même plus, parce qu'en fait finalement dans la fiction c'est plus facile de faire advenir du réel que dans le documentaire. Le documentaire c'est terrible, enfin sur ça, hein, sur parce que soi-disant c'est la matière, quoi, tandis que bon c'est la fiction par rapport à ça, ça a plus cette vocation possible de faire surgir un peu de réel.
Peut-être parce que dans le documentaire, il y a une espèce de concurrence peut-être indémêlable justement entre la réalité et le réel. C'est-à-dire qu'effectivement, une espèce de lutte, de conflit effectivement moral, et puis effectivement qui pose un vrai problème certainement à ceux qui réalisent des documentaires. Alors peut-être que dans la fiction, j'ai presque envie de dire que la question de la réalité est réglée. C'est-à-dire que la réalité est presque au service de la fiction, qu'il y a une espèce de présupposé de la fiction, et que c'est peut-être plus dur, effectivement, de démêler cela.
En tout cas, il n'y a pas d'un côté l'enregistrement et de l'autre la fabrique. Ça n'existe. Je pense que réellement, en cinéma, ça n'existe pas. Enfin, cette idée, voilà. Oui.
Moi, je suis peintre. Je ne veux pas circonscrire la question de la fiction au cinéma. Enfin, j'entends bien que vous êtes critique de cinéma, il y a quelqu'un qui fait des films, mais je pense que là, on est là pour réfléchir sur l'idée de fiction d'une manière générale. Et il me semble important de baser toujours une réflexion sur quand on a un concept aussi complexe que celui-là, de partir de l'étymologie. C'est pour ça que j'y reviens. Forger, c'est disposer de matière brute, métal et de feu, et avec ça, fabriquer, forger, hein, c'est ça. Donc j'ai du matériau, et j'ai de l'énergie, je dispose d'une énergie, la caméra, l'électricité, ça c'est de l'énergie, et j'ai le matériau c'est la vie, ça peut être des acteurs professionnels, ça peut être dans le cas documentaire de personnes que je vais filmer, etc. Bon. De toute manière, je pense qu'il me semble qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que la frontière entre film de fiction et film documentaire, c'est une fausse frontière, puisque ne serait-ce que parce que dans le documentaire, il y a du montage. Il y a donc une construction, d'accord ? Enfin, c'est pas une fausse frontière, c'est pas une fausse frontière, c'en est une, mais c'est pas une frontière, à mon sens, essentielle. Alors, quelle serait la... Alors, je me permets de prendre position, hein, de répondre à la question que j'ai moi-même posée à la tribune. Quel serait l'élément déterminant, quel serait l'élément qui donnerait du sens, de la valeur à une fiction plutôt qu'à une autre? En peinture, je pense par exemple... je vais prendre par exemple les peintures de Jackson Pollock, hein, qui sont le dripping recouvert uniformément, je dis bien uniformément, c'est-à-dire que ce qui se passe en haut à gauche de la toile, on le retrouve au milieu, on le retrouve à droite, etc. Je m'engage en disant ça, hein, je vais prendre des risques, il n'y a pas de construction. Du coup, il y a l'effet du hasard qui est surdéterminant, et j'opposerai par exemple Pollock à Mondrian, où il y a au contraire une surdétermination, tout est calculé. Pour moi, ce qui ferait la valeur d'une fiction, je vais prendre position, je vais donner un jugement et mettre un jugement de valeur, je me base sur une citation de Georges Braque qui dit « J'aime la règle qui corrige l'émotion et j'aime l'émotion qui corrige la règle. Trop de règles, trop de prédétermination, trop de calcul aboutit à mon sens, c'est très subjectif, à du vide, à de la vacuité. Et inversement, l'abandon au hasard aboutit aussi à une vacuité. Et c'est la dialectique, pour reprendre la terminologie de Braque, de l'émotion et de la règle qui est vectrice de sens. Voilà. Et c'est ce qui fait la valeur d'une fiction. Et ce matin, je disais en aparté à des collègues, je dirais que pour moi, ce qui fait la valeur d'une fiction, pour le dire autrement, je vais dire la même chose, mais en d'autres termes, c'est le fait qu'on puisse se projeter, donc ça relève de l'empathie, et en même temps se distancier. Même si le temps de l'empathie n'est pas le même que celui de la distanciation. Il m'est arrivé à plus d'une fois, maintes fois, de comprendre la signification d'un de mes propres tableaux, mais des jours, des semaines, parfois des années plus tard. D'accord ? Il y a le temps de l'empathie, de l'engagement, je dirais l'engagement. On s'engage dans ce qu'on fait, on s'engage. Et puis après, il y a la distanciation critique. Et je pense que ce qui fait la valeur d'une fiction, c'est cette dialectique entre les deux. Voilà. C'est un point de vue personnel. Voilà.
Il faudrait réagir à ça.
Merci. Alors, on n'est bien entendu pas d'accord. Je ne vais pas refaire la conférence d'hier, mais pourquoi je n'ai pas abordé, puisque tu parlais des deux jours, donc je me permets d'intervenir, pourquoi je n'ai pas abordé l'étymologie ? Bien entendu, je la connais. La fiction, ça a été mon sujet de thèse, donc je me suis un tout petit peu penché sur le dictionnaire. Il me paraît absolument nécessaire de jouer l'usage contre l'étymologie. C'est-à-dire que l'étymologie peut être informative, mais quand elle conduit à tuer le débat, c'est-à-dire qu'on en revient à dire que tout ce qui est forgé, c'est-à-dire en gros tout artefact, est fictionnel. Ah bon ? Donc on peut avoir des éléments non forgés qui parviennent sous une forme en tant qu'œuvre. Le problème, on retrouve... Attends, je vais terminer parce que... On retrouve ce que disait Moghrabi dans la vidéo. C'est-à-dire, il lui manque un honnête courtier qui, il le dit, un honest broker, d'un honnête courtier qui rendrait directement raison de la réalité. Il n'existe pas. C'est-à-dire s'excuser dans un documentaire d'avoir réécrit, d'avoir mis en scène, d'avoir traité. Il utilise le verbe process. Naturellement. Je pense que Marina ne peut pas produire un documentaire sans y réfléchir, sans agencer, sans cadrer. Sans... On n'a pas d'accès primaire et non artefactuel au réel. Même la caméra de parking la plus inhumaine qui soit est déjà placée, alimentée, etc. Donc déjà, elle forge quelque chose. Donc c'est probablement pas ce que tu as dit. Mais si on part exclusivement de l'étymologie, on retombe dans le problème insoluble de tout est fiction. Et dans ce cas-là, pourquoi autant d'acteurs sociaux autour de nous estiment-ils quand même que, quand on classe effectivement sur l'étagère, comme le redisait Moghrabi, les œuvres, on a quand même d'un côté des œuvres documentaires qui partent, et de l'autre des œuvres fictionnelles, et puis bien entendu toute une série d'œuvres hybrides, indécidables, etc., dont il faut tenir compte. Mais l'usage, quand Marina parle de son travail fiction et documentaire, c'est qu'elle accorde du sens à cela. Et je ne me vois pas, au nom d'une étymologie, la contredire. Ça, c'est mon éthique de sociologue. Et je vais lui laisser le micro pour qu'elle
réponde. Je ne vais pas ni vous contredire, ni vous... En fait, je suis, pour des raisons absurdes de contraintes, je suis obligée de partir. Donc, en fait, je voulais juste saluer tout le monde, remercier tout le monde, remercier beaucoup, beaucoup David et Nadia, enfin, et tous les organisateurs. C'est lamentable, j'ai très honte et je suis très frustrée de ne pas voir la suite de la discussion. Mais il y a tout le monde a les mails de tout le monde, je pense. Donc, par contre, ça m'intéresse de la continuer.
Petite remerciement, Marina.
Les trains sont un vrai réel.
Les trains sont une réalité. Enfin, je pourrais le louper, mais ça m'arrangerait pas du tout. Mais regardons les films, lisons les livres. Moi, je suis vraiment curieuse de lire.
Merci, Marina.
Et voilà.
À très vite.
De pas grand chose. Hein.
Simplement, je clôt mon propos en quelques secondes. Lorsque je parlais hier d'engagement, de preuve, de recoupement. Il ne s'agit pas de collationner au réel. Bien entendu, on ne peut que recouper des versions hétérogènes du réel. Et c'est à cela que s'engage un documentariste. Et bien entendu, qu'on prenne Nanouk ou qu'on prenne Sur le chemin de l'école de Pascal Plisson, on a des effets de mise en scène, de scénarisation, de montage, de placement de la caméra, etc., dont on peut dire « Ah, c'est de la fiction parce que Pascal Plisson a placé sa caméra. » C'est un débat sans fin et, à mon avis, stérile si on essaye de comprendre quel est le propre de la fiction. Si on essaye de mettre fiction derrière n'importe quelle œuvre, dans ce cas-là, on trivialise le mot fiction.
Juste ce que je voulais dire, tout artefact n'est pas une fiction. Parce que moi, j'ai bien. Et premièrement, deuxièmement, j'ai bien dit. C'est vrai que je suis parti de l'étymologie. Mais l'étymologie, elle ouvre le débat, mais elle ne le clôt pas. C'est un point de départ. Ça, c'est important. Et j'ai bien précisé, j'ai bien parlé d'émotions et de règles. Excuse-moi, mais je ne vois pas forcément de l'émotion dans tous les artefacts. C'est-à-dire que c'est... Voilà, donc d'accord. Donc je crois que c'est important. Voilà.
Quelquefois, c'est plus simple. Ouais, c'est vrai. Moi, quand quelqu'un me demande, j'ai besoin de raconter une histoire, comme romancier. Et c'est ça, c'est plus simple. Si je me demande ça sera fiction, non-fiction. C'est bien sûr qu'on a besoin de réfléchir beaucoup. Mais en même temps, je me demande pour ça, c'est quoi la différence, Alain, je veux te demander, je vais te poser la question, entre le film et l'installation. Par exemple, je pense à un film qui s'appelle Sleep de Andy Warhol. Donc, c'est quoi ça? C'est une mise en scène?
Enfin, aujourd'hui en français, l'installation, c'est pas Warhol.
Non, non.
Mais l'installation en France aujourd'hui, c'est quand tu as plein d'écrans, tu te promènes dans un espace et c'est toi qui choisis. Quand au cinéma, tu choisis pas. Tu es assis et tu as. Tandis que l'installation, je parle là du terme aujourd'hui français, installation, c'est pas ce dont tu parles. Si tu veux installation, c'est toi qui décides si tu vois à 3 secondes, si tu restes à voir un quart d'heure, si tu vas voir le dos de la télévision. Enfin, tu vois, c'est-à-dire, c'est un tout autre rapport, disons, au spectateur. Et après, bon, évidemment, Warhol, c'est très important dans cette histoire-là, sur le fait que quand il fait le film, comment ça s'appelle, Chasing Girl, où il met les filles devant l'écran et il les filme une bobine entière, lui, il a compris qu'il y a du dispositif et son dispositif est très très fort. C'est le contraire du type aujourd'hui qui, avec son iPhone, filme dans la rue ou filme des inconnus. C'est-à-dire, il a compris une chose, c'est que le réel et le dispositif, c'était indissociablement lié. Son idée à lui, c'est je vais attraper un peu de réel en ayant un dispositif totalement rigide et en demandant rien. C'est-à-dire, les filles qui sont devant la caméra, il leur demande littéralement rien, il ne les dirige pas, ce n'est pas des actrices. Et il pense que de là va sortir quelque chose du réel. Et souvent, ça marche. Enfin, moi, j'aime beaucoup Chasing Girl, ça marche, ce truc-là. Après, c'est un début et une limite, c'est-à-dire qu'après, quelqu'un qui aujourd'hui ferait ça, ça marche plus, parce qu'il l'a fait, il a été le premier à le faire et ça a produit. Et après, les dispositifs, ça s'use et on peut pas reprendre un dispositif qui a marché. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que Godard, par rapport à ça, c'est le plus fort, parce que Godard, toute sa vie, il invente de nouveaux dispositifs. C'est-à-dire Godard, c'est aujourd'hui, pour moi, il n'y a aucun doute, hein, c'est le plus grand inventeur de formes et de dispositifs depuis 60 ans dans le cinéma. C'est-à-dire que Godard, il ne s'est jamais contenté de faire... Il trouve des choses sur un dispositif. Une fois qu'il les a fait, c'est oublié, il passe à autre chose. Aujourd'hui, il ne fera jamais plus des plans où la fille parle et après on reste sur son visage. Ça, il l'a fait, c'est bon. C'est-à-dire que lui, il a compris que si ça devient un système, ça perd toute efficacité. Et qu'il faut sans arrêt, et quand il fait les trucs en 3D, on n'a jamais vu ça. La façon dont il filme les êtres humains en 3D, quoi. C'est-à-dire que lui, il est tout le temps en train, il sait qu'un dispositif, ça s'use. Mais, sauf qu'il faut en trouver des nouveaux. Il faut avoir la force d'en trouver de nouveaux.
Qu'est-ce qui fait fiction, par exemple, si on dépasse effectivement la fiction, hein, c'est-à-dire une dénomination, qu'est-ce qui d'un seul coup fait fiction comme une sorte de disruption Et il se trouve que le dernier livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, le dernier livre de Jacques Rancière, s'appelle « Les bords de la fiction ». D'ailleurs, bon, c'est-à-dire que le titre de notre colloque est inspiré aussi du titre du dernier livre de Rancière. Et Rancière, effectivement, parle de la différence qu'il fait entre fiction et histoire, par exemple. Parce que c'est vrai que souvent, on fait la confusion entre fiction et histoire. Est-ce que toute histoire est forcément de la fiction? Et il rappelle, justement, il évoque, à un moment donné, Aristote, la poétique, où il disait que finalement, l'histoire, c'est en effet, elle désigne les choses qui arrivent, comme ça, dans un certain ordre, dans une certaine causalité, etc. Alors que la fiction... désignerait les choses comme pouvant arriver, c'est-à-dire comme et j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que du coup, ça rejoint aussi cette idée que la fiction, finalement, peut appartenir au régime des hypothèses, un régime hypothétique, justement. C'est-à-dire que la fiction ne se réduit pas, pour prendre la question de l'histoire, ne se réduirait pas à l'histoire en tant qu'ordre d'événements selon des normes comme ça de causalité, mais serait quelque chose qui se déploie à partir de l'histoire, ou qui débloquerait finalement l'histoire dans quelque chose de beaucoup plus vaste, enfin, dans une forme d'ouverture un peu spéculative. Et moi, il me semble que ce qui est intéressant, justement, c'est que le rapport fluctuant entre fiction et histoire, à mon avis, c'est du même ordre que entre fiction et réel, pour moi. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que quelque chose de l'ordre, en effet, du surgissement, pas forcément, qui ne relèverait pas forcément de l'intention du créateur, mais qui pourrait faire partie quand même de ce qu'il propose ou de ce qu'il offre justement au spectateur. Voilà, et que d'une certaine façon, ça c'est l'exemple du verre du verre d'eau, moi, que j'ai toujours bien aimé, c'est-à-dire qu'au début du cinéma, pour rester au cinéma, hein, on filme un verre d'eau dans une certaine durée, et cette durée du plan du verre d'eau nous donne la réalité du verre d'eau. Puis au bout d'un moment, effectivement, à partir du moment où il n'arrive rien à ce verre d'eau, on en a la réalité, mais finalement, on finit par s'habituer à cette réalité-là. C'est ce que tu disais tout à l'heure. La réalité, elle est nommable et on ne fait plus attention. Puis à un moment donné, le verre se brise. Et d'une certaine façon, ce verre qui se casse, c'est de la fiction. Et l'autre pourrait être le nom de la fiction. C'est-à-dire que ce verre qui se casse, c'est la fiction de ce verre. Et je trouve ça très... il me semble que c'est aussi intéressant, cette idée que la fiction qui dit pas son nom, finalement. Voilà, et qui pourrait, d'une certaine manière, être identifiée ou perçue par le spectateur seul. Enfin, il me semble que c'est quelque chose qui m'intéresse, dans cette...
Oui, sur ce dont tu parles, moi, j'avais travaillé un peu sur ça. C'est-à-dire, quand est-ce que, quand un film commence, un homme marche, c'est de la physique. Enfin, on ne sait rien de lui, il marche. À partir de quel moment je sais que je vais être dans une fiction ? À partir de quel moment, dans le film, je me dis c'est une fiction ? En général, c'est quand il parle à quelqu'un d'autre, ou il rencontre quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, ce qu'ils se disent, ça va me placer très très vite sur le plan d'une fiction ou pas. C'est-à-dire ceux qui se disent, je vois très bien qu'il y a l'imaginaire de quelqu'un et que je suis embarqué dans l'imaginaire. Et cet imaginaire, ça sera finalement l'atmosphère qui fait qu'il y a fiction. Et il y a des cinéastes, il y en a beaucoup, il y en a pas mal, qui jouent à retarder ce moment très longtemps. C'est-à-dire, on ne sait pas si ce qu'on voit, c'est un homme qui marche ou si c'est un homme à qui il va arriver quelque chose d'imaginaire. Enfin, est-ce que c'est juste un homme qui marche ou est-ce que ça va être le support de la fiction ? Et donc, il y a des cinéastes qui jouent avec ça, c'est-à-dire ils te font attendre, ils ne t'engagent pas dans la fiction, dans l'imaginaire. Et à un moment, ils vont t'engager dans l'imaginaire. Comme ça. Bon, il y a plein de films qui reculent. Alors, le cas de Voyage en Italie est évidemment un cas unique et génial, puisque Voyage en Italie, le film commence, on voit la route, on voit un couple dans une voiture, et puis la voiture s'arrête et il change de place. C'est-à-dire, tu t'en fous complètement qu'il change de place. Et en fait, ce que nous dit Rossellini, c'est, dans ce film-là, je guiderai pas la voiture. Je vous prendrai pas par la main. Démerdez-vous. C'est-à-dire, il n'y a pas de maître de cette fiction. Il n'y a pas de maître dans la fiction du voyage en Italie. C'est-à-dire, vous allez vous débrouiller avec ce que je vais vous montrer. Mais je ne suis pas un auteur. Enfin, cette histoire, elle n'est pas racontée par moi en tant qu'auteur qui maîtrise les trucs d'une fiction. Je vais vous montrer des morceaux, il y aura des acteurs et il y aura des morceaux de réel. Mais je ne suis pas sûr, je surplombe rien. Et le film tient ça, ce qui est un truc de fou, 53, quoi. C'est-à-dire, le film tient cette chose-là de dire, voilà, je refuse d'être celui qui tient les rênes. Donc, il l'énonce très, très bien au début. Et en plus, il dit, bon, j'adore, quand le couple arrive à la villa, on visite toutes les pièces, quoi. Ça n'a aucun intérêt fictionnel, narratif. Et quand on dit à Rossellini, quand on dit à Rossellini, mais pourquoi vous avez montré toutes les pièces? Il dit, parce que je peux pas commencer mon histoire s'ils n'ont pas visité toutes les pièces. Mais c'est pas une plaisanterie. Mmh. C'est-à-dire, il dit, voilà, je refuse de prendre quelque chose en main. Il va les reprendre à la fin, au moment du miracle. Parce que là, il va les reprendre. Il fait le travail, il fait la grue, etc. Mmh. Mais entre-temps, on se démerde. Enfin, et on ne sait jamais si on est précisément dans quelque chose qui est maîtrisé comme une fiction ou si on est dans un truc beaucoup plus pragmatique, expérimental. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais du visage d'Ingrid Bergman et qui regarde des sculptures du musée. Donc, c'est très fondateur sur cette histoire-là. Et Kiarostami, par exemple, il adorait ça dans le film Kiarostami. Souvent, on se dit, mais est-ce que ça va commencer? Est-ce que ça va commencer? Est-ce qu'il va y avoir de l'imaginaire ou une fiction? Et il joue avec ça de façon extrêmement étirée. Mm-hmm. Et à un moment, ça marche. À un moment, mais il a décidé qu'avant, il nous maintienne dans un état d'indécision sur... voilà. Parce que, juste après, j'arrête, mais le mot imaginaire est très important par rapport à ce que, là, on appelle fiction. C'est-à-dire, à un moment, je sens que le réalisateur veut m'inclure dans un univers imaginaire. J'accepte ou pas. Mais si j'accepte, voilà, je sais que je suis dans un univers imaginaire. Et on parlait à midi du truc de Lynch. Oui. De Lynch, c'est génial, c'est-à-dire que on comprend rien à l'histoire, etc. Mais on s'en fout parce que on sait.
De Twin Peaks.
Oui, on sait qu'on est et on le voit et on le sent qu'on est dans l'univers imaginaire du réalisateur, même s'il n'y a pas de fiction. Enfin. Même s'il n'y a pas d'histoire ou même s'il n'y a pas... Mmh. Voilà. Donc, ça veut dire que ça dépend aussi de l'atmosphère. Enfin, c'est un vieux mot, mais voilà, de l'atmosphère. Comment on est dans une scène, on sait pas pourquoi, mais on y est. On est enveloppé de l'imaginaire. Même si on ne comprend rien aux enjeux des personnages dans cette histoire. Quoi. Et là-dessus, il est... très très fort. Enfin, moi je trouve que là-dessus, aujourd'hui, c'est le plus fort. Enfin, sur ça, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas sortir de ça, quoi. Enfin, quand tu commences, tu peux plus. Chaque scène.
Mais Lynch, c'est un bon exemple sur la question de la fiction. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a de la fiction chez lui à la condition que ces histoires doivent être effectivement reprise, reconfigurée, répétée, renversée, etc. C'est que, voilà. Donc lui, il ne confond absolument pas la fiction avec l'histoire.
Il y a plus d'imaginaire que de fiction, d'une certaine façon. Mm-hmm. Enfin, on est dans
ça. Il y a très souvent dans les films de Tarkovsky ce que j'appellerais des digressions où on voit un gros plan de l'eau, de la pluie. Voilà. Ça a une valeur, à mon avis. Mais ça, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on met derrière les mots? Plus lyrique, voire mystique, qu'on voit ici dans Rossellini. Mais est-ce que vous mettriez... D'abord, est-ce que vous voyez ce que je veux dire par les digressions? Oui, oui. Voilà. Est-ce que vous mettriez le mot réel dans ce que j'appelle, moi, ces digressions, chez Tarkovsky?
Moi, non.
Vous, non. Vous, non, d'accord.
Pour moi, c'est un cinéaste métaphysique. Donc, dans la métaphysique, il y a physique. Mais si vous voulez, en gros, non, moi je vois pas de réel chez Tarkovsky, sauf quand il joue avec les matières, quand il fait des glissements de matière, mais c'est pictural, c'est autre chose. Enfin, pour moi, c'est tout à fait autre chose. C'est pas vraiment de la fiction, enfin, au sens du récit, etc. Quoi. C'est autre chose, c'est une autre. Nature finalement du cinéma.
Je suis vraiment désolée d'être le trouble fait. Voilà, je crois que j'ai pas d'autre terme. Hop. Et de revenir à la réalité. On remercie.
Ah bah, de toute façon, oui, on va bien sûr remercier.